le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui. Émission numéro 111 en ce mercredi 16 novembre 2016. Christophe Rollin au micro. Il n'y a pas grand chose qui marche. Pas d'invité, pas d'Isa. Je n'ai pas de voix non plus. Gérald n'a pas la forme. Mais néanmoins, oui, si. Gérald, tu es là, oui.
Oui, je suis là.
Ah ouais.
Bonjour.
Tiens, exception. Nous t'écoutons en début d'émission.
Ouais, c'est rare.
Comme ça, on peut se dire bonjour. Salut Gérald.
Bon, une interview téléphonique était prévue
maintes choses
autour de Tchaïkovski et de la saison russe qui a lieu.
Qui a déjà commencé.
À l'auditorium.
À l'auditorium, c'est ça. Et donc, c'est la raison de la première écoute que nous allons faire, la dernière symphonie de Tchaïkovski, puisque cette numéro 6, cette sixième symphonie, tu m'as dit, il meurt combien de jours après ?
Elle a été appelée pathétique par son frère Modeste Tchaïkovski. Il se trouve qu'il est mort 9 jours après l'avoir dirigé à Saint-Pétersbourg pour la première. Donc elle est mythique.
Auditeur, faites attention.
Son testament musical.
Elle sera donnée le samedi 26 novembre à 18h à l'Auditorium par l'Orchestre National de Lyon, sous la direction de son directeur permanent, Leonard Slatkin. Nous écoutons les premières notes comme ça, et puis pendant ce reste d'émission, nous allons bavarder, présenter différents spectacles. Le mur est actuellement à l'affiche au Théâtre de la Croix-Rousse. Il y a aussi Tableau d'une exécution qui est donné au Théâtre de Célestin. Beaucoup de choses à différents endroits, nous en parlerons. Ça fera peut-être redite par rapport au panorama.
On fera différentes annonces. C'est Piotr Ilitch. Piotr Ilitch, donc, qui n'est pas modeste, son frère, Tchaïkovski, symphonie numéro 6. Pathétique, en si mineur opus 74. On écoute l'adagio allegro non troppo andante, le premier mouvement, de 17 minutes. Peut-être pas les 17 minutes.
Non. Alors, vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'êtes pas sur France Musique ou Radio Classique. C'est bien Radio Canu et Gérald, j'y pense, on ne l'a jamais dit. La plus rebelle des radios. Je crois que c'est une fois unique. Hein, on le dit aujourd'hui, je ne sais pas si une radio rebelle, c'est pas ça qui importe. Vous vous écoutez donc bien Spectaculaire sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM ou bien radiocanu.org. Et là, nous écoutions à l'instant, c'est bon dans le temps. Nous sommes le samedi 26 novembre, il est 18h40. 50 je crois, puisque dans la première partie il y aura tout d'abord la troisième symphonie, puis ensuite la sixième sera donnée. Et donc là c'était le tout début, on était encore bon pour un quart d'heure, un peu moins c'est ça je crois
7 minutes.
Un premier mouvement qui est assez long. Nous écoutions une interprétation de fait du chef hongrois Ferenc Fritzay, et c'est donc dans le cadre de la d'un moment de la saison de l'auditorium qui s'appelle le Festival Russe. Ça a commencé la semaine dernière, le 8, avec une invitation lancée au Philharmonique de Saint-Pétersbourg. Et puis il y a encore différents événements. Et nous, aujourd'hui, nous souhaitions surtout, avec l'auditorium, on souhaitait les avoir au téléphone pour parler plus précisément de ces symphonies de Tchaïkovski. Tu indiquais son prénom Piotr, c'est ça, Gérald.
Si les auditeurs aiment les comparaisons comme on a fait la dernière fois avec l'opéra de Katsu, j'ai aussi une version en mono de 1949, Leningrad Philharmonic Orchestra dirigé par Yevgeny Mravinsky.
Un orchestre russe.
Et ça en peut plus, être intéressant Mravinsky. De comparer.
Ouais, écoute, si tu veux, on mettra ça. Oui,
juste pour le début, deux minutes.
Ah, mais
pour
très bien.
Le son qui craque.
Pour voir ça. Je dis pour voir ça, ce sera pour entendre. Si vous souhaitez néanmoins voir ces symphonies qui sont donc données, l'intégrale est donnée, les six symphonies. Il n'a pas Tchaïkovski comme qui Beethoven, Mahler ou qui encore Bruckner. Il n'a pas composé 9. Brahms, c'est 4 seulement. Schumann, 4 seulement.
Ah oui.
Schubert, 8. Mozart, 42, 43, je ne sais plus combien. Haydn, un paquet aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas un compositeur avec une centaine de symphonies, quoi, choses. Mais plutôt contemporain, me semble-t-il. Donc Tchaïkovski s'est arrêté à 6 symphonies. Il n'aurait pas pu en faire une 7e puisque tu indiquais que 9 jours après la création, il décédait. Donc ces symphonies sont toutes données, absolument toutes, de la première à la 6e à l'orchestre, à l'auditorium. Elles seront toutes jouées, données par l'Orchestre National de Lyon sous la direction de son chef permanent, de son directeur pour sa dernière saison, Leonard Slatkin. La saison 2017-2018 sera assurée par un autre chef, ce sera une transition. Donc Leonard Slatkin est présent dès demain, jeudi 17 novembre à 20h pour les symphonies 1 et 4. La première symphonie, certaines ont des petits noms. La première, c'est la rêve d'hiver. Voilà. Donc demain à 20h. Ensuite, petite pause. Reprise mardi prochain, mardi 22 novembre pour les symphonies 2 et 5. Et puis à nouveau une très courte pause. Ce sera à 20h pour le mardi 22. Ce sera à 18h le samedi 26 pour la fin, la conclusion, les symphonies 3 et 6. Et on continue à écouter là en tapis sonore, en fond sonore. On continue à entendre le premier mouvement de cette symphonie pathétique, la sixième, donc donnée à la fin de ce festival, de manière assez logique, le samedi 26 novembre à 18h, sous la direction donnée par l'Orchestre National de Lyon, sous la direction de Leonard Slatkin. Des précisions à vous donner, écoutez, ce sera de qualité. Je crois que l'orchestre est en bonne forme actuellement.
Il est connu, le chef.
Le chef permanent, Leonas Latine, est très bon, donc ça peut être de bonnes choses. Moi-même, je pense m'y rendre. J'irai demain voir les deux premières, puis j'essaierai de faire un compte-rendu. Mais c'est bien, elles sont bonnes, ces symphonies de Tchaïkovski. Elles sont bonnes. Voilà. Donc nous nous contentons de dire ça. Si nous avions pu avoir un spécialiste de l'auditorium, certainement aurait-il tenu d'autres propos, des choses bien plus pointues et précises. Hélas, ça ne peut pas être.
Une autre fois peut-être.
Une autre fois peut-être.
On va changer, passer du coq à l'âne à propos de spectacles contemporains et actuellement donné à Lyon. Donc on va parler de différentes choses. Le spectacle qui se donne depuis mardi soir et qui se donnera jusqu'à samedi soir, donc du 15 au 19, au Théâtre de la Croix-Rousse, qui s'appelle Murmure. Dons on va écouter des extraits. Je confonds avec le
Mur tout court.
Le long métrage d'Agnès Varda sur les muralistes de Los Angeles. Non, c'est Mur, tout simplement, pluriel. C'est une nouvelle création de la compagnie Nomade in France à la Croix-Rousse. Et on en parlera, je vous lirai un petit commentaire et on va écouter quelques extraits. Dans le cadre du festival Trace qui touche à sa fin, dont on a malheureusement pas beaucoup parlé cette année. On l'avait chroniqué pendant 2 années avec Benjamin van der Leek, qui est revenu dans le coin pour en parler. Et on parlera d'un autre spectacle qui est donné ce soir à Bron, autour de la langue, de la diversité des langues, avec l'ethnologue Jean-Yves Goud et des gens de Lyon. Et
est-ce que tu as bien donné ce terme de musical pour Mur? Parce que c'est du théâtre, certes, mais spectacle, enfin théâtre musical. Donc ce qu'on va écouter, c'est de la musique. Enfin, ça va être un peu...
Un morceau entièrement composé par Abdel Waheb Sefsaf et son groupe Alligator, Georges Beau et Nestor Kea. Il retrouve également les comédiens Marion Guerrero et Thomas Roche et leurs compétences multiples quant à l'écriture. Il a cette fois travaillé en collaboration avec l'écrivain Jérôme Richer. Donc en alternant des moments musicaux endiablés avec des scènes jouées, des micro-conférences et des vidéos-reportages, c'est aussi l'histoire de nos peurs qu'Abdel Waheb Sefsaf raconte de sa voix profonde et chaleureuse. Un conte musical sur notre humanité, empli de paradoxes. Ouvrez les guillemets, nous souhaitons explorer et jouer la dimension littéralement schizophrène de notre société mondialisée qui sait, presque au même rythme et avec la même folie, inventer de nouvelles routes commerciales et bâtir toujours plus de murs.
Seul sous une pluie d'acier,
Gérald. Oui. Alors, on peine à trouver ce que nous écoutions. Le titre elle-même, le titre lui-même, moi, ce qui est écrit, c'est Il faut partie. Croix-Rousse, hein, c'est donné au théâtre de la Croix-Rousse. Il faut écrit FAUX. Je sais pas. Partie avec un E.
On écoutera après Warum Good.
Le deuxième extrait de
en allemand,
ce spectacle
allemand.
Théâtre musical, je crois qu'il est qualifié comme ça,
donc
donné
ça, oui.
Au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé hier, mardi 15 novembre, c'est donné jusqu'à ce samedi 19, 20h en soirée. Samedi, je crois que c'est 19h ou 19h30. Tu as l'horaire précis sous les yeux, toi?
Non, c'est dans le cadre du Festival Trace, hein, que je rappelle, qui touche à sa fin, qui a inondé tous ces spectacles, rencontres autour des migrants cette année. Toute la région Rhône-Alpes, de diverses rencontres et spectacles.
Et donc, tu souhaitais en parler.
Donc, oui, d'abord, bon, je voulais remercier Claire Grenier et Loïse Lecomte, les ambassadrices du Théâtre de la Croix-Rousse, pour leur sollicitude, puisqu'elles voulaient nous proposer des invités, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais on n'a pas eu le temps d'aller voir au spectacle hier soir. Mardi soir, on était invités aussi. Bon, pour elle, en tout cas, elle pense que c'est un très bon spectacle, humaniste, à la fois humaniste et généreux, qui tient plus du théâtre musical. Et elle invite le plus grand nombre à aller voir ce spectacle.
Ah, tu n'es pas tout à fait fidèle, tu ne retrouves pas la phrase où à l'heure où nous multiplions les moyens de communication.
Oui.
Tu as déjà indiqué ça, oui.
Ouais, donc voilà.
Des murs restent dressés, murs MURS, un spectacle de Abdelwahab Sefsaf, accompagné de Jérôme Richer. Et la musique, tu parlais de Alligator, il y a des affiches un peu partout dans Lyon.
Un concert-spectacle à la fois humaniste et généreux que nous avons envie de faire découvrir au plus grand nombre, selon Héloïse et Claire. Donc allez-y jusqu'à samedi.
Jusqu'à ce samedi. Je vais rechercher l'horaire pour samedi, parce qu'en soirée, en semaine, c'est à 20h.
Voilà. Et ce soir, donc, à Bron, à l'espace Albert Camus, il y a un autre spectacle dans le cadre du Festival Trace, dont je vais parler deux secondes très rapidement, quand j'aurai retrouvé le mail qui concerne ce spectacle. Donc, nous sommes le 16 novembre, c'est à 18h30 au théâtre à l'espace Albert Camus de Bron, organisé par la compagnie Les Arpenteurs. Il a déjà été donné en début de mois de novembre ailleurs. Donc la clé des langues par la compagnie Les Arpenteurs. Des textes vivants, toute une réflexion sur la langue et la poésie. On va dire des textes qui peuvent être produits par des gens vivants à Lyon et ses environs, des migrants. Des gens qui sont arrivés de fraîche date, une réflexion autour des langues, et avec des textes qui vont s'intégrer à l'intérieur d'un texte de Jean-Yves Goud, qui est assez connu, en fait, l'ethnologue, anthropologue. Voilà.
Moi, j'ai retrouvé l'horaire, c'est 19h30 le samedi. Donc, auditeurs, si vous souhaitez vous rendre ce soir à ce spectacle à Bron, c'est à quel endroit de Bron?
Tu l'as précisé? Albert Camus. Ah, Espace Albert Camus, on va dire.
Donc si vous souhaitez vous y rendre ce soir, et si vous ne pouvez pas donc aller voir Mur, eh bien Mur est encore donné jeudi 17.
Alors par rapport au Festival Trace qui portait sur les migrants cette année, c'est la dernière semaine, mais il y a encore des événements à ne pas rater. Le jeudi 17 novembre à 19h30, il y a un film, Migration, les sentiers de la mondialisation, organisé par et à la MJC de Villeurbanne. 19h30 à Villeurbanne, un film. Le vendredi 18 novembre à 20h, il y a de nouveau la clé des langues par la compagnie des Arpenteurs dont je parlais à l'instant. Mais cette fois, ça sera à la salle de la mairie annexe de Vaux-en-Velin Sud, vendredi 18 novembre, donc à 20h. Si vous l'avez raté ce soir, vous pouvez y retourner vendredi 18 à 20h à Vaux-en-Velin. Dimanche 20 novembre, à 15h, une visite des visites patrimoniales de la Guillotière, avec une visite autour des patrimoines de l'immigration, organisée par les musées Gadagne à la Guillotière. Balade de quartier, tout ça est sur réservation. Vous pouvez, je pense, taper sur internet si vous voulez plus de renseignements, Trace, et vous tomberez sur tout le programme du festival. Qui avait débuté déjà du 3 au 27 novembre dans le Rhône. Il s'est passé plein de choses en Isère, dans la Loire, dans la Drôme, dans l'Ain. C'est un grand festival qui s'est installé dans la région, et qui est assez vivant. Et la mairie du 1er, la semaine dernière, la salle était comble. C'était plein. Donc ça rencontre un certain succès. Il y a une reconnaissance de ces questions-là. Et c'est intéressant d'avoir une autre vision de la question des migrants dont on parle beaucoup, mais avec un regard un peu plus positif et moins catastrophiste, et plus intelligent et peut-être plus culturel et humaniste. Voilà.
Très bien, on a un deuxième extrait pour revenir et terminer sur Mur, un deuxième extrait qui s'appelle Varum Good. Ce que je souhaiterais faire, moi, c'est tout de même, Gérald, par correction, et puis parce que c'est assez facile, assez aisé, je vais lire la présentation qui est faite sur le site internet de la Croix-Rousse, croix-rousse.com. Présentation de ce spectacle Mur, donné depuis hier mardi 15 jusqu'à ce samedi 19. Pourquoi attendre ? La question est posée et lancée. Faisons tomber les murs après Made in America et pour son deuxième spectacle musical présenté à la Croix-Rousse, Abdel Waheb Sefsaf, comédien et chanteur, a choisi de nous conter une histoire de murs. Des murs. Quels murs ? Ensuite, il y a un long paragraphe. Je tiens à le lire. On écoute Varum Good ensuite et puis après nous parlons d'autres choses. On en restera là pour le théâtre de la Croix-Rousse. Il y a encore des choses à dire pour un autre théâtre. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, jamais les hommes n'ont construit autant de murs. Abdel Waheb Sefsaf, Jérôme Richer pour l'écriture et Georges Beau, co-compositeur, imaginent une délirante galerie de portraits aussi singulière qu'improbable. C'est qu'il y en a des murs. Murs de séparation, murs de la paix ou de la honte, murs sécuritaires, murs de protection, murs de confinement. Mais à la longue, ces murs entrent dans nos têtes. Ils cloîtrent nos esprits et deviennent le remède à nos angoisses. Et pourtant, les murs tombent toujours. Que ce soit sous les coups d'assaillants ou sous ceux du temps. Humour et finesse d'écriture se mettent au service d'une œuvre à la fois naïve, délicate, truculente, irrévérencieuse et engagée. Une œuvre qui dit non à l'interdit, qui explore les limites de la rencontre entre genre et mauvais genre, entre théâtre et musique, où la vidéo crée un décor et une réalité, un espace et une perspective, un passé et un présent. Au son d'une world music, qu'on a déjà donc un peu écouté, électro-ethnique, la voix d'Abdel Waheb Sefsaf passe d'une douceur extrême aux scats vocaux les plus fous. Sa langue est forte et poétique pour servir au mieux son propos aux frontières de l'intime et du politique. À bas les murs. Deuxième question que nous vous lançons, en quelque sorte. Varum Good, c'est le deuxième extrait que nous diffusons, extrait qui nous a été transmis très aimablement, très gentiment par nos ambassadrices, ambassadrices de charme du Théâtre de la Croix-Rousse. Nous diffusons cet extrait et puis ensuite il sera temps à 14h30 de parler encore de quelques spectacles et puis nous verrons, peut-être on termine tôt, on s'était dit Gérald, je sais pas.
On verra parce qu'on pourra toucher un mot de l'Expo Kandinsky à Grenoble.
Normalement spectaculaire.
Festival du court-métrage de Villeurbanne et puis de la Villa Gilet, la chose publique.
On a des invités, on reçoit des invités parce que sinon quoi, on fait redite du panorama. Donc pauvres auditeurs, ça fait 3 heures de lecture du petit bulletin de midi jusqu'à 15h. Oh mon dieu, c'est pas beau du tout. Allez, écoutons Varum Good avec ma voix cassée, je dis absolument n'importe quoi, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais ce sera néanmoins réécoutable puisque l'émission est enregistrée. Et moi je tiens à toutes les mettre, les 111 émissions sont sur le site. Non, il en manquait une, tu m'avais dit je crois Gérald. Il manquait la 58e ou 34e ou je sais plus, une émission fantôme. Varum Good, Abdel Waheb Sefsaf avec Jérôme Richer et le groupe Alligator pour ce spectacle Mur, donné encore jusqu'à ce samedi 19 novembre au Théâtre de la Croix-Rousse.
Sprich mich nicht an und weder Gott noch Gebot kenne ich. Ich bin ein Hühnerdieb, ein Menschenanalphabet. Du kennst mich nicht und du hast Angst vor mir. Ich bin vom Teufel besessen. Gurugu, 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 gurugu. Warum? Gurugu, 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 gurugu. Ha! Gurugu, 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 gurugu. Warum?
und ich existiere nicht. Ich bin ein singender Manus wegen Rum. Du sprichst mich nicht an und weder Gott noch Gebot kenne ich. Ich bin ein Schmutzling voller Leut, ein Vollenser, der sich an den Nüssen juckt. Ein Bötterl-Schneider.
Hey, c'était entraînant, ça, non?
Ah oui, c'était une sorte de rythme d'Europe centrale, un petit peu.
Je sais pas, Maghreb aussi, je trouvais.
Oui, matinée de, ouais, avec, de Brégovic. Non.
Possiblement. Si vous souhaitez en savoir plus, nous en restons là, nous, dans Spectaculaire, mais vous pouvez tout à fait, auditeur, vous rendre sur la colline, au Théâtre de la Croix-Rousse. C'est à 20h ce soir, mercredi 16, demain jeudi 17, ainsi que vendredi 18, toujours ce même horaire, et puis samedi, ce sera 19h30. Et voilà, ça aurait pu être très intéressant, on aurait pu en parler, nous aurions donc également pu évoquer, hein, en début d'émission, c'est ce qu'on a fait, on aurait pu parler avec un intervenant de ces symphonies de Tchaïkovski, qui seront données à partir de demain jeudi 17, ce sont les premières et quatrièmes demain, deuxième et cinquième mardi prochain et samedi prochain. La troisième ainsi que la sixième. Tu proposes que nous écoutions une autre version, c'est ça, Gérald, voilà. De la sixième symphonie, une version de 1949 par le Leningrad Philharmonic Orchestra, dirigé par Yevgeny Mravinsky. Ouais, tu penses que ça va effectivement craquer un peu?
Pas longtemps. Hein.
On peut voir ça. Ouais. Ah ouais, déjà c'est du mono, ça. Ouais. auditeur, vous devriez...
Désolé pour les porteurs de casque qui ont eu le son dans une oreille.
Vous devriez être présent parce que on devrait faire que comme les autres médias, Gérald, filmer de la radio parce que là, vous manquez les précisions, les interventions de Gérald. Tu trouvais que cette version était
N'empêche que cette version, je la trouve beaucoup plus introspective que la précédente, plus lente.
Ça monte, dis-je.
Elle est plus pathétique, finalement. Elle est russe, quoi.
Ah ben...
C'est quand même...
Nous faisons une sorte de triple bond dans le temps.
L'orchestre de Leningrad.
Nous sommes le samedi 26 novembre.
Moins bonne qualité.
Sur les coups de 19h, puisque l'orchestre de Lyon à Lyon, l'orchestre l'ONL donnera à l'auditorium cette 6e symphonie. Bon, dans le temps également, nous nous retrouvons en mars 49 avec Yevgeny Mravinsky qui interprète cette symphonie avec le Leningrad Philharmonic Orchestra. Alors ça, c'est le nom anglais, je crois que c'est, je suppose que c'est l'orchestre philharmonique de Leningrad, qui n'existe plus, Leningrad, si ça... Est-ce que ça a rechangé de nom? Je ne sais plus.
Ah,
et puis, dernier... Question. Ben non, il me semble que c'est Petrograd qui avait changé de nom, je sais plus quels sont les... Et puis, ultime bond dans le temps, nous sommes sur les coups de 14h05, 14h10, quand on diffusait en début d'émission l'autre version, une version en stéréophonie, une version du Deutsche Grammophon. J'ai pas l'orchestre sous les yeux, je sais seulement que le chef était le chef hongrois Ferenc Fricsai. Enregistré il y a quand même quelques années, il me semble, 1960. Mais c'était tout de même la stéréophonie. Quoi qu'il en soit, que nous soyons à 2h10 le samedi 26 ou en mars 49, cette symphonie, elle est quand même...
Donc ce soir, bien, si vous n'êtes... Il n'y a pas de symphonie de Tchaïkovski ce soir.
Non.
Par contre, il y a Mur, au Théâtre de la Croix-Rousse, il y a la Compagnie des Arpenteurs, la Clé des Langues, à Bron, à l'espace Albert Camus. Et si vous voulez voir un autre type de théâtre, vous pouvez vous rendre... à l'ENM, salle Antoine Duhamel, pour aller assister à la classe d'art dramatique, Théâtre de l'Iris, ENM, un stage sous la direction de Christine Joly, du CRR de Tours, assistante à la mise en scène Marie Roussel-Olivier, Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce. Donc c'est en partenariat avec le Théâtre de l'Iris. Ça sera donné le mercredi 16 et le jeudi 17 novembre à 20h.
Je crois qu'il y a une petite phrase qui apparaît, il me semble qu'il a écrit ça très peu de temps avant sa mort, Jean-Luc Lagarce.
Donc Le Pays Lointain, le thème, j'ai près de 40 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai, dit le protagoniste Louis au début de la pièce.
Et il me semble que Jean-Luc Lagarce, c'est le même cas, non? C'est parce que le flyer indique dessous.
Oui, je fais quelques semaines avant la mort de l'auteur, Le Pays Lointain raconte le retour de Louis dans sa famille, juste avant de mourir. Il y a ceux qui sont là, ceux que l'on évoque et ceux qui apparaissent à la manière d'un cœur antique. Des personnages sans nom opèrent dans la pièce, tels des machinistes qui jouent les rôles des hommes que Louis a croisés pendant sa vie. Leurs figures, leurs voix et leurs expressions s'additionnent et résonnent dans ce lieu anachronique où se convoquent les vivants et les morts. Ici, les mots ont une vertu essentielle, car ils sont vrais, sensés et sincères. Ils soignent les cœurs qui pleurent. Ils servent à régler les conflits entre les femmes et les hommes, les parents et les enfants, les frères et sœurs. Ce soir, 20h, demain, salle Antoine Duhamel, avec l'ENM, Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce à Villeurbanne. Pour s'y rendre, c'est 46 Cours de la République, la salle Antoine Duhamel.
Du théâtre, il y a aussi la pièce qui aura une longue durée de représentation. Tableau d'une exécution de l'auteur anglais Howard Barker, mise en scène par Claudia Stavisky. Et lorsque je nomme Claudia Stavisky, auditeur, si vous connaissez un peu, j'allais dire un peu l'émission spectaculaire, peut-être davantage si vous connaissez un peu Lyon, vous savez que Claudia Stavisky est la directrice la directrice du théâtre des Célestins et donc également metteur en scène au féminin, peut-on dire, et elle met en scène cette pièce. Elle la met en scène, ça a commencé hier, le mardi 15 novembre, et ça se terminera, je crois, début décembre. Je dis toujours je crois parce que je n'ai pas les éléments sous les yeux, je vais les retrouver. Voici, je les ai sous les yeux, ça se termine le 7 décembre. Le 7 décembre, ce sera un mercredi 7 décembre, et je crois d'ailleurs que c'est le jour où nous recevrons l'invité d'Isa, Stéphane Roy, producteur documentaire, cinéma, enfin différentes choses. Il parlera peut-être un peu de son métier, du Festival de Cannes, il était question. Enfin, il aurait pu venir au mois de mai, puis justement, en fait, il ne pouvait pas parce qu'il était à Cannes. Donc, du 15 novembre, hier, mardi, jusqu'au 7 décembre, le mercredi, presque un mois, trois semaines, est donné au Théâtre des Célestins. C'est c'est une première fois que ce spectacle est monté, mais le texte que j'ai pu lire date de quand a-t-il été écrit ce texte? Il y a quelques années. C'est un texte absolument stupéfiant, j'ai trouvé, 2001, me semble-t-il. Donc, est monté et donné la pièce Tableau d'une exécution de l'auteur Howard Barker, mise en scène Claudia Stavisky, avec David Ayala, Geoffrey Carré, qui joue souvent sous la direction de... comme si c'était des termes musicaux, qui joue souvent, qui interprète souvent, qui fait souvent des pièces avec Claudia Stavisky. Éric Caruso, Christiane Corandi, Anne Comte, Valérie Crouzet, Simon Delétang, Savalo Loff, Philippe Magnan, ainsi que Michael Pinelli. Donc j'ai lu la distribution intégrale de cette pièce. Je donne quelques éléments seulement, parce que normalement Claudia Stavisky elle-même devrait en parler. Elle est déjà venue à Radio Canut, donc elle nous connaît. Elle nous estime, je crois même qu'on peut dire. Donc elle en parlera peut-être mercredi prochain, le 23 novembre, ou alors le mercredi suivant, le 30 novembre, parce que il est peut-être question de faire un peu de musique brésilienne. Je sais pas si ça pourrait être possible.
C'est ça, les plannings. Aujourd'hui, on a pas d'invité. On en a deux en balance pour la semaine prochaine. Puis, il va falloir choisir.
Bon, nous verrons.
C'est difficile.
Donc écoute bien cela, Gérald. Je peins la bataille de Lépante, et je la peins de telle sorte que quiconque la contemplera ne pourra s'empêcher de se baisser afin d'éviter les flèches qui en jaillissent. C'est une déclaration de la peintre, la peintre. J'étais en train de chercher un inventaire féminin. C'est une déclaration de Galaxia, qui est le personnage principal, interprété par Christiane Coandy. Et cette femme est absolument effrayante. Pour l'instant, je n'ai que lu le texte. Je n'ai pas encore vu la pièce, et c'est
alors, bataille de Lépante.
Elle est terrible.
C'est quand?
1571.
L'invasion ottomane.
Là, je lis quelques éléments qui sont indiqués sur le flyer. République de Venise, 1571, en pleine Renaissance, Galaxia, femme et peintre, se voit commander un tableau monumental pour commémorer la bataille de Lépante et glorifier la victoire de l'État vénitien sur l'Empire ottoman. Ouais. Mais, au lieu de mettre en scène l'apologie du combat, elle choisit de peindre la vérité d'une guerre, sa réalité faite de chair morte et de corps à vif. Le troublant tableau vient alors heurter la politique, entraînant Galaxia dans un duel où l'art se fait l'ennemi des mécaniques du pouvoir. Excusez-moi, auditeur. Et donc, bref, cela continue. Ce spectacle dure 2 heures. Il est donné tous les soirs à 20h, dimanche à 16h. Donc, et puis, relâche les lundis. Donc, ça a commencé hier, mardi 15. C'était la première. Et c'est jusqu'au mercredi 7 décembre. C'est, d'après ma seule lecture du texte, moi, je peux dire que c'est bon. Ça a l'air d'être.
C'est étrange parce que c'est un thème hyper pictural qui a donné lieu à des grands chefs-d'œuvre. Un des plafonds du Palais des Doges à Venise.
Alors c'est très intéressant.
Parce que souvent représenté, c'est vraiment
que à la mise en
martial.
Scène, peut-être qu'il y aura une scénographie également intéressante. Enfin, je sais pas.
C'est curieux d'adapter une bataille comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, ça a été beaucoup peint. On trouve des versions de la bataille de Lépante à l'Escorial en Espagne. C'est une bataille hyper célèbre, très importante pour l'Occident et les rapports internationaux. Donc, elle a été souvent peinte, et puis c'est une accumulation de figures, de personnages, de bateaux, de navires, c'est énorme, c'est souvent des grands formats, c'est épique.
Ah bah, le format,
alors là,
c'est 100
mètres. De voir comment ça va être adapté au théâtre.
100 mètres sur 30, je crois. Mais comment ça peut être possible, ce format-là? C'était, où est-ce qu'on peut exposer ce type de toile?
Des doges, par exemple. Des doges, pardon.
100 mètres sur 30.
Des doges.
C'est absolument,
c'est gigantesque. Je vous la repérerai dans la ville, elle est très belle, elle est troublante, l'affiche, hein, on dirait c'est une femme étendue, on dirait un symboliste.
Je voulais te questionner, je voudrais
une peinture symboliste de la question lyonnais.
Artemisia, cette
Gentileschi.
Voilà, c'est pas elle. C'était cette époque, non, bien sûr, mais c'était cette époque ou
parce que c'est, oui, 16e.
Parce que je crois qu'elle est totalement fictive, hein, cette galaxie, elle n'existe pas, elle n'a pas existé, c'est pas
un double d'Artemisia.
Vénitienne aussi, non?
Je suis pas sûr. Bon, je dirais plutôt napolitaine, mais je suis pas sûr.
Travaillons, Gérald. Préparons des questions à poser à Claudia la semaine prochaine ou bien la semaine suivante. Au Théâtre National Populaire, il y a également une pièce que j'aurais aimé voir donner sur une durée vraiment très courte de lundi. Ça a commencé le lundi de cette semaine, lundi 14 jusqu'à ce mercredi 16. Il y avait également mardi 15 hier, de Valère Novarina. Une pièce, le Vivier des Noms.
Ah oui, Valère Novarina, ça c'est bien.
Eh oui, c'est très bien. Je m'étais dit, est-ce qu'on lui lance une invitation? Mais c'est un peu compliqué. Si toi tu souhaites y aller, Gérald,
moi j'aimerais bien.
Un compte rendu ensuite.
Pour avoir vu l'opérette imaginaire au théâtre du Point du Jour il y a des années.
Ouais, moi aussi, j'ai vu une pièce.
Le théâtre de Valère Novarina, il est quand même exceptionnel. Il est drôle, il maltraite bien la langue française, comme j'aime bien, et voilà.
Eh bien, c'est donné sur seulement 3 dates. Ça se termine ce soir. Je vais chercher S dans la grande salle. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Le Vivier des Noms, texte, mise en scène, ainsi que peinture assurée par Valère Novarina. Du lundi 14, c'était avant-hier, jusqu'à mercredi 16, durée 2h40. Attention, c'est dans la grande salle, la salle Roger Planchon, dans le Grand Théâtre. Avec plusieurs comédiens, Julie Cperré, Dominique Parent, Claire Sermon, Agnès Sourdillon, Nicolas Stru, Valérie Vinci, etc. Christian Pacou sera le musicien, Élie Urbeck, Richard Pierre seront les ouvriers du drame, et puis il y a encore différentes choses. C'est un spectacle qui a été créé à Avignon en juillet 2015. D'où vient qu'on parle? Que la viande s'exprime. Voilà. Et puis, puis ça continue.
Habituel. Hein.
Le TNP aura une riche actualité Aimé Césaire au mois de décembre-janvier, puisque Cahier d'un retour au pays natal sera donné pour une première fois par notre invité que nous estimons, que nous apprécions, Olivier Borle. Et puis surtout, une saison au Congo sera donnée, ainsi que un nouveau spectacle qui sera donné au mois de janvier. Le spectacle la tragédie. Alors attention, le terme.
Christophe.
Exactement. Voilà, le terme est. Le titre est un peu long. Enfin, pas tant que ça, parce qu'un autre titre sera plus long. C'est la très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette. Ça sera donné dans la petite salle Jean Bouise, mais ça n'a aucun rapport avec Aimé Césaire. Le rapport Aimé Césaire, c'est la tragédie du roi Christophe, une mise en scène de Christian Schiaretti. Ce sera au mois de janvier prochain, du 19 janvier jusqu'au 12 février. On essaiera de faire une date peut-être à la mi-décembre ou peut-être en janvier pour parler. Ben, à la mi-décembre seront déjà passées la saison au Congo, qui est redonnée, puisque c'est donné une troisième fois, je crois, il me semble. Ça a déjà été donné deux fois. C'est du vendredi 2 décembre au samedi 10, et en parallèle du mardi 13 décembre au samedi 17, puis dans un deuxième temps du mardi 3 janvier au samedi 7 janvier, Olivier Borle pour le Cahier d'un retour au pays natal. Donc ça veut dire deux grandes pièces, et puis ce texte très très fort, très très particulier, donné par Olivier Borle, et c'est Christian Schiaretti qui sera la mise en scène pour les autres spectacles.
Voilà pour le théâtre.
Pause musicale.
Oui, et puis après on finira l'émission.
Pascal est déjà là, je crois qu'il est un invité pour aujourd'hui.
Ben, encore 5 minutes, on évoquera quand même la Villa Gilet, parce qu'il y a des rencontres intéressantes à faire. On passe du théâtre à la chose publique, Res Publica, avec des invités très intéressants, deux notamment. On en parlera, et puis peut-être brièvement Kandinsky, et puis le festival du court-métrage de Villeurbanne, comme ça sera fait peinture.
Alors attention, le panorama hebdo a longuement évoqué, ils avaient un invité
de Villeurbanne.
Un invité, Alain Delac, je crois, ou Michel Delac.
On rappellera juste les dates, alors, et la compétition.
Nous le ferons peut-être, éventuellement. Mais écoutons un titre, Gérald, je n'ai pas mis ton CD, j'ai mis autre chose. J'ai mis les Arocs. On va entendre un truc bien, c'est une femme, c'est une Anglaise avec un sacré accent, un British accent. Kate Tempest, elle chante Ketamine for Breakfast, extrait de l'album Let Them Eat Chaos. La demeure du chaos. Mais tu vas voir, c'est les Arocs, c'était le numéro de la semaine dernière. Cette semaine, il est consacré à Leonard Cohen. Zut, on aurait pu en apporter du Leonard Cohen. Mince, ah, voilà. C'est ballot. D'abord, nous écoutons Kate Tempest, et puis ensuite, moins d'un quart d'heure pour terminer l'émission d'aujourd'hui.
Now look here, in the house opposite. Black gateposts with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper. Nicotine gold, up the stairs, rickety, loaded with history. Here, in the top flat, flowers on the windowsill, little breeze fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes, street lights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. She holds herself tight in the room's half darkness. It's cold. She wedges her hands underneath her armpits. It's 4:18, and Gemma's thinking. Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever I could get my grubby mitts on. Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with. I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips. Heads in the basement, lips without faces, getting feisty. Half baked in the bakery, eating pastries. Desperate for a body who could save me. But I never really wanted what they gave me. Always wanted something else, sweating in the dole queue. Spitting like a villain in the pantomime. Old shoes, bad teeth, drinking in the rain with my ghost. Sitting in the back of the class, comatose. Villains on my back in the dark, hold me close, but you never held. I did some things I swore I'd never tell. That night you tried to kill me, run me down with your car in the snow. I didn't realize how far you would go. Every day I live lives in the day I wake up, and my dreams are all screaming of fuck. But I'm fine now, something remains, it's still pulling me. Yeah, my future is bright, but my past trying to ruin me.
Tried to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more.
I saw some things when I was
was young that made me who I would become. I feel them with me every day, cause if you try and run away, they run beside you pace for pace, trip you up and drag your face through the mud of every waste. They're chancing every bitter taste. Heart is sprayed up with the names of all my friends who lost their way. Doesn't change, it all remains. It takes my strength and gives me shame. All I want is someone great to make me everything I ain't. But the only ones for me are the ones that shouldn't be. Even though I'm doing good, I'm working hard, my work is strong. Might be fun just for a while to go back where my hurt is from. Rinse myself through emptiness and push my body close to anybody who can recognize the presence of my ghost.
Try to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Try to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more. Try to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Try to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more.
Et voilà, les Inrock en disent, puisque c'est extrait de la compilation des Inrock de la semaine dernière, un automne 2016, les Inrock en disent, Kate Tempest, après une nomination au Mercury Prize, la poétesse et slameuse londonienne revient avec un second disque manifeste à vif ancré dans les réalités de son époque. C'est l'album Let Them Eat Chaos, édité chez Caroline, et là c'était l'extrait Ketamine for Breakfast. Je crois que ce numéro des Inrock est encore en vente. Ils font ça quand ils mettent un CD, ils le mettent 2-3 semaines. Mais là, cette semaine, c'est Leonard Cohen. Ah, c'est ballot, j'aurais dû en apporter.
On
aurait pu.
So
long, Marianne. On aurait pu diffuser d'autres choses. Gérald, allez, moins
pour
de
finir,
5 minutes.
Juste pour dire
qu'il faudra laisser
donc la chose
Pascal
publique,
s'installer avec son invité.
À la Villa Gilet, une semaine de débat d'idées avec des invités assez prestigieux. Dont je vais en choisir un ou deux. Donc ça commence lundi prochain, 21 novembre, et ce sera jusqu'au samedi 26 novembre, à la Villa Gilet, évidemment, du même nom. Donc moi ce qui m'intéresse beaucoup, ce serait plutôt il y a plusieurs thèmes, hein, comment redonner du sens au droit international, relire la révolution, la vie intellectuelle en France, réinventer la démocratie, les défis du terrorisme global, la science mise à mal de la fraude dans les labos, intéressant. Et puis deux thèmes qui m'intéressent encore un peu plus, il y a soulèvement, donc entretien avec Georges Didier Huberman, cet excellent écrivain théoricien de l'art qui a publié une trentaine de livres. Philosophe, historien de l'art, enseigne à l'école des études en sciences sociales, HESS, depuis 1990, il est très connu. Il est passé au regardeur de Jean de Loisy, présenter la nouvelle expo dont il est le commissaire, soulèvement au musée du Jeu de Paume. Voilà. Donc le rapport que nous entretenons avec les émotions est ambigu, on a tendance à tout leur demander ou au contraire à tout leur refuser. Qu'elles soient individuelles ou collectives, l'émotion dit quelque chose du rapport à soi et aux autres. L'historien s'empare de matériaux tels que les révoltes, les émeutes et les révolutions pour construire un espace de réflexion transdisciplinaire sur le rôle des émotions dans l'histoire des hommes. Un thème intéressant et un peu vertigineux hein, d'ailleurs. Donc ça sera le vendredi 25 novembre, Georges Didier Huberman. Un entretien donc animé par Michel Lussault, géographe, directeur de l'Institut français de l'éducation. À la Villa Gilet 25, rue Chazière, Lyon 4e, entrée libre sur réservation, www.villagilet.net. Pour réserver, donc, pour aller entendre Georges Didier Huberman le vendredi 25 novembre sur la question de l'émotion dans les soulèvements, les révoltes, à 19h30. Alors, ceux qui aiment Caroline Fourès aussi, la laïcité en question, ce sera samedi 26 novembre à 14h30 à la Villa Gilet. Pareil. Un entretien animé par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction à l'Express, avec le soutien des éditions Grasset. Voilà. Donc un enjeu mondial et passionnel. Dans Génie de la laïcité, Grasset 2016, Caroline Fourré retrace l'histoire de la loi de 1905 et de l'école laïque jusqu'à nos jours, clarifie les lignes de fracture entre le sécularisme à l'anglo-saxonne et la laïcité à la française. Elle démontre que la laïcité française résiste mieux qu'on ne le dit au racisme et au radicalisme et retrace l'histoire presque unique au monde de cet équilibre entre principes républicains et liberté de conscience. Elle propose un compromis ambitieux, une laïcité fidèle à son histoire, faite d'exigence et d'équilibre, et d'un peu de ce génie français dont parlait Jean Jaurès.
Allez, Gérald, il est presque temps de conclure.
Et puis, si vous avez le temps et le courage d'aller à Grenoble, l'exposition oui. Kandinsky, les années parisiennes, qui doivent être magnifique, 1933-1944, au musée de Grenoble, du 29 octobre. Et vous avez jusqu'au 29 janvier pour aller découvrir cette période de Kandinsky avec un beau dépliant dont, dont les œuvres apparaissent
on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup à Lyon. Nous sommes incités, Lyonnais, à nous rendre à Grenoble. Moi, j'ai une sorte de clin d'œil à faire. Je viens de mettre la main sur le festival, l'Institut Lumière, la programmation. Et je vois qu'aujourd'hui, mercredi 16 novembre, à 18h45, est projeté le film Mauvais Sang. Avec quel acteur? Le sais-tu, Gérald?
Oui.
Eh oui. Nomme-le.
Denis Lavant.
Denis Lavant, venu
c'est
deux fois
un...
dans l'émission
c'est
spectaculaire.
C'est pas ce
un film
fait,
de.
J'ai toujours pas vu Holy Motors, alors je sais pas.
Un film de Léos Carax qui date de 1986, 1h59, c'est donné en couleur. La nouvelle programmation est arrivée du 10 novembre jusqu'à la fin décembre, avec notamment une sorte de rétrospective Tom Cruise. Le cinéma en quatrième vitesse. Mais bon, à côté de ça, il y aura Pierrot le Fou, il y aura d'autres trucs. Voilà, je pense qu'il est temps de faire retentir.
Pascal, au plus des canuts, est son invité. À la semaine prochaine, alors soit Duo Brésil, soit Tableau d'une exécution avec Claudia Stavisky.
Avec Claudia Stavisky, auditeur, grand suspense. Pour avoir des renseignements et des précisions, rendez-vous sur le site, le blog BLOGS. Comment ça marche déjà .radiocanu.org/spectaculaire et vous aurez tous les renseignements sur l'émission, magnifique émission d'aujourd'hui et puis les prochaines à venir. 111e, c'est ballot, 111e, le 16-11-16, ça aurait pu être un peu mieux.
Théâtre, c'est pas grave, on a parlé de
musique, opéra, plein de choses, expositions. Rendez-vous
ce soir
partout. Courez les spectacles ou à défaut, écoutez la radio, écoutez la programmation musicale des bandes continues à venir ou alors Méga Combi à 18h. On n'arrête pas le prog à 17h et à venir dans quelques instants le blues des canuts. Pascal avec un invité, c'est très bien. On continue avec Cora et les bandes continues et puis on se dit la semaine prochaine. Salut Gérald, salut tout le monde.
Au revoir.
Bye.
Guerre mondiale. Juste avant, il y avait Brigitte Fontaine qui vous chantait Prohibition et encore avant, c'était Didier Super qui reprenait comme d'habitude sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.